Bonjour, aujourd'hui dans Trainspotting, on reçoit Laurent Alexandre pour discuter de son dernier livre « ChatGPT va nous rendre immortels ». Ouais. Laurent est chirurgien, entrepreneur, essayiste. C'est aussi un observateur qui est très avisé des révolutions technologiques et de leur impact sur notre société. Et dans ce nouveau livre, il analyse comment l'arrivée de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'intelligence artificielle générale, va profondément bouleverser l'humanité jusqu'à peut-être nous rendre immortels. Mais à quel prix ? Salut Laurent.
Bonjour.
Dans ton livre, tu écris que le transhumanisme n'est plus un choix, mais une nécessité. Tu commences presque par ça. Pourquoi ?
Parce qu'on a créé une société extrêmement compliquée grâce aux technologies NBIC, qu'on a laissé partir une cavalcade technologique qui devrait nous mener relativement rapidement à l'AGI ou à quelque chose d'assez proche de l'AGI avant la fin de la décennie. Or, nous n'avons pas augmenté les capacités cognitives des humains. Nous avons dès à présent déjà une partie importante de la population qui ne suit pas le TGV technologique, et avec le développement de l'AGI ou de la quasi-AGI, cela va s'aggraver. On va donc en réalité se retrouver dans la situation qui avait été prévue par Harari, des dieux et des inutiles. Je dis ça non pas pour m'en féliciter, mais pour constater que cet écart cognitif va être socialement insupportable. Ma grande crainte, c'est une gilet-jaunisation mondiale. L'éducation ne progresse pas du tout, tu le sais bien, et elle ne peut en aucun cas suivre la croissance absolument folle de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, c'est un chiffre arbitraire, mais il n'y a pas très longtemps, Elon Musk expliquait que la puissance de l'intelligence artificielle était destinée à être multipliée par 10 tous les 6 mois. Même si ce chiffre est exagéré et est une outrance supplémentaire de Musk, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une désynchronisation complète entre la croissance de l'intelligence artificielle et le développement de l'intelligence humaine. Donc oui, nous n'allons pas avoir le choix. Aucune technologie éducative ne peut permettre aux êtres humains de suivre et d'être compétitifs vis-à-vis de l'intelligence artificielle et de comprendre l'ultra-complexité du monde. Et puis, il y a un facteur nouveau qu'on n'avait pas vu, que moi, personnellement, je n'avais pas vu, c'est le développement d'une robotique humanoïde dotée de LLM, donc d'intelligence artificielle ayant vocation à devenir de l'AGI d'ici la fin de la décennie, et qui pose un problème cette fois-ci non pas pour les travailleurs intellectuels, mais pour les travailleurs manuels. Il y a quelques jours, avec mon ami Olivier Babot, que tu connais bien, on a écrit dans le Figaro un papier qui résume tout à fait ce qu'on pense et qui n'est pas de la provocation gratuite. Le robot travailleur manuel aura demain l'intelligence d'un polytechnicien. Nous avons jusqu'à présent une économie où le travail manuel et le travail intellectuel sont très séparés, sont segmentés. Le laveur de carreaux, le jardinier, le cuisinier n'est pas docteur en chimie, n'est pas docteur en astrophysique, n'est pas docteur en cancérologie. Demain, bien évidemment, les robots humanoïdes qui sont en train d'être développés auront les capacités cognitives que va leur donner l'intelligence artificielle sur lequel ils seront branchés en permanence. Donc, quelle sera la compétitivité du laveur de carreaux aux 39 heures de 2035 face au robot laveur de carreaux travaillant 23 heures sur 24 et ayant des capacités intellectuelles lui permettant de mener des tâches multiples. On peut dire la même chose d'ailleurs des robots humanoïdes qui pourraient travailler dans nos maisons plus tard si cette robotique se développe effectivement comme Elon Musk l'envisage. Ces robots humanoïdes branchés sur les IA les plus puissantes seront meilleurs en médecine que nos médecins et meilleurs en droit que nos avocats.
Oui, donc cette accélération de l'IA fait qu'il va falloir qu'on suive, et d'une certaine manière, ça devient une nécessité de nous augmenter. C'est un peu la thèse que tu évoques dans le livre, mais tu évoques aussi plusieurs étapes.
Tu sais bien qu'on peut imaginer d'autres hypothèses. Tu as l'hypothèse sociale, qui est la mienne, c'est-à-dire on maintient une inégalité cognitive entre les classes sociales, entre les individus, grâce au neuro-enhancement. Donc on permet à tout le monde d'être compétitif par rapport à l'intelligence artificielle, au moins pour les prochaines décennies, et de comprendre la complexité du monde. pour éviter des phénomènes complotistes extrêmement violents liés au fait que le monde est trop complexe pour une partie de la population. Ça, c'est la première vision, la vision sociale.
D'augmentation cognitive
pour qu'il n'y ait pas des dieux et des inutiles en reprenant l'expression d'Harari. Après, tu as la deuxième vision qui est la vision du revenu universel, hein, qui est la vision de Sam Altman. Sam Altman dit, il va falloir mettre la quasi-totalité de la population au revenu universel parce que presque personne ne va être compétitif face à l'AGI. Il l'a dit plusieurs fois ces 6 derniers mois. Et puis enfin, t'as une troisième grande possibilité qui est l'interdiction de l'IA, les moratoires sur l'IA. On a vu que les 3 dernières tentatives de moratoire et le putsch contre Sam Altman se sont terminées en pantalonnade. Donc, il paraît difficile pour des raisons pratiques et pour des raisons géopolitiques face à la Chine qu'on puisse bloquer l'IA. Donc, en pratique, il reste 2 solutions. Le revenu universel à la sortie du collège jusqu'à l'entrée chez Orpea. Et la deuxième possibilité, c'est le neuro-enhancement qui est beaucoup promu par Elon Musk, qui est persuadé qu'au-delà des versions actuelles de Neuralink qui servent à réparer des malades, on pourra aller vers l'augmentation avec les versions ultérieures de ces implants intracérébraux.
Et encore, ce ne sont que des étapes, parce que dans ton livre, tu dis que l'étape ultime, la toute dernière étape, finalement, c'est la désincarnation. C'est-à-dire qu'on arriverait à un stade où des intelligences qui seraient désincarnées pourront communiquer à la vitesse de la lumière. C'est la vision de Teilhard de Chardin, de la noosphère. Tu y crois vraiment?
Il y a 2 possibilités. Et il est très difficile de prédire comment évolue la technologie. Hein. Tout le monde s'est planté. Moi, quelques semaines avant la sortie de GPT 3.5, j'étais convaincu qu'on rentrait dans un nouvel hiver de l'intelligence artificielle. Demis Sassabis a mis 50 jours pour croire à la scalabilité des LLM après la sortie de GPT 3.5. Hein, en janvier, début janvier 2023, il avait encore du mal à croire que c'était une vraie urgence pour Google et pour l'ensemble Google DeepMind dont il gère aujourd'hui la totalité de l'IA. On pourrait multiplier les exemples. Hinton lui-même a dit que il y a quelques trimestres, il pensait que l'AGI était là entre 100 et 200 ans. Aujourd'hui, il pense qu'elle pourrait être là dans 2 à 5 ans. Donc, tous les experts se sont trompés. Donc, notre capacité de prédire le futur sur le plan technologique, elle est nulle. Donc, il faut beaucoup de prudence. C'est pour ça qu'il faut raisonner à partir de scénarios très évolutifs. Tu as vu, on en a parlé, les données qu'a colligé ARK Investment. Le consensus, il y a 3 ans, sur l'arrivée de l'AGI, sur le dépassement de l'homme par l'IA, c'était 2100. C'était le consensus mondial des experts en IA. On est maintenant à 8 ans. Ça veut dire que depuis, en 3 ans, chaque mois, l'AGI, selon les experts, s'est rapproché de nous de 1,88 années, ce qui est dément. Et ce qui montre à quel point, soit on se plante aujourd'hui, soit on se plantait il y a 3 ans. C'est-à-dire que la volatilité des estimations des experts est quelque chose de bouleversant. Personne n'arrive à prédire le futur technologique. On ne voit pas les plafonds de verre. Il y en a eu dans les années 60 et 70. On ne voit pas les modèles qui sont ultra scalables. On ne voit pas les phases où le coût de production de l'intelligence s'effondre. Nous sommes très mauvais de façon alternative, avec des moments où on est pessimiste et des moments où on est naïf technologiquement et ultra optimiste. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait de nouveaux hivers de l'IA, qu'il y ait des plafonds de verre, notamment sur l'architecture LLM, hein, c'est ce que pense Gary Marcus, c'est un petit peu ce que pense Yann Lequin, qui conduirait à retarder considérablement l'arrivée de la quasi-AGI ou de la AGI. Admettons que la production d'intelligence artificielle reste fortement scalable et qu'on continue des progrès sur le rythme actuel ou un petit peu moins rapide, notre dépassement va être extrêmement rapide. Parce que l'intelligence artificielle est multidisciplinaire, ce qui n'est pas notre cas, et parce que la société moderne génère une quantité de données qui est trop complexe pour un individu. Tu sais bien, comme je l'expliquais il n'y a pas très longtemps dans Le Figaro, je connais 1/1000ème du savoir médical. Pas 1%, pas 1/1000ème, pas 1/1000ème. Comment pourrais-je optimiser le service que je peux rendre à un malade quand je connais 1/1000ème du corpus doctrinaire permettant de bien soigner les malades? je ne peux pas réussir sans être aidé par des intelligences artificielles qui, elles, vont connaître tout le corpus doctrinaire, tout le corpus intellectuel, tout le corpus scientifique et qui vont être capables de traiter ça de façon multidisciplinaire. Ma spécialité est une spécialité sur 26. Je n'en ai jamais connu plus d'un tiers.
Mais pour le coup, tu es médecin. Et si on pousse l'hypothèse de la noosphère, c'est-à-dire de l'arrivée de cet environnement où les cerveaux sont désincarnés, finalement, c'est la fin du vivant. C'est la fin du vivant au sens où il n'y a plus de corps, oui, au sens où il n'y a plus d'esprit, au sens où il n'y a plus de matière. Comment un médecin comme toi peut simplement s'arrêter au constat, parce que tu es du côté de la vie. Comment un médecin comme toi ne peut pas être un résistant face à ce toboggan technologique qui nous amène vers cette noosphère qui est non pas la mort de la mort, mais la mort assurée en réalité.
On peut vouloir détruire les call centers, faire des moratoires, ça va être très difficile. D'abord parce que l'IA est nécessaire pour développer l'énergie de fusion, va être nécessaire pour le stockage du CO2, va être nécessaire pour guérir les 45% de cancers que nous ne guérissons toujours pas et qui meurent bien souvent dans des souffrances atroces. Et même si je suis favorable à l'euthanasie pour les gens qui le demandent, je préférerais que nous guérissions les gens atteints de maladies incurables plutôt que de les aider à passer de l'autre côté.
Oui, mais il y a un continuum entre cette IA qui permet de faire tout ce que tu dis et la noosphère quand même.
On va accepter les GI pour des raisons énergétiques, pour des raisons médicales, pour des raisons géopolitiques et militaires. Et une fois qu'on a les GI, on sait bien intuitivement qu'une fois qu'il y a de les GI, on n'est pas très loin de la super IA. C'est la crainte, bien sûr, d'OpenAI, hein, qui sur le blog de, qui sur son blog a sous la plume des principaux collaborateurs de Sam Altman a beaucoup parlé du problème du super alignement, c'est-à-dire de l'alignement de la super intelligence artificielle par des hommes pas très intelligents. Donc, je pense qu'on est effectivement sur un toboggan technologique qui va être très difficile de l'arrêter, que les moratoires ne pourront pas vraiment fonctionner parce que la loi de Moore continuant, on va pouvoir fabriquer de l'IA sur des ordinateurs pas très gros, donc ça est plus difficile à contrôler que les armes atomiques dans le cadre de la non-prolifération. Et à terme, on a effectivement, tu le sais bien là, le grand débat qui a opposé Larry Page et Elon Musk et qui les a conduits à se fâcher, l'opposition entre la vision transhumaniste et la vision posthumaniste. Mais dans mon dernier bouquin qui vient de sortir, ChatGPT va nous rendre immortels, je traduis bien cette tension à l'intérieur de la Silicon Valley et plus généralement de la tech, qui n'est plus une tension entre Frigide Barjot, les bioconservateurs et puis les transhumanistes, mais une opposition entre les transhumanistes et les posthumanistes, entre ceux qui veulent augmenter l'homme pour qu'il soit compétitif avec l'IA, c'est le cas de Musk, et puis les gens comme Larry Page, même Kurzweil, qui sont persuadés que la bataille est totalement perdue, et dans cette biographie d'Elon Musk que tu as beaucoup aimé comme moi par Isaacson, on raconte très bien ces discussions qui ont conduit Elon Musk et Larry Page à se fâcher. Elon Musk défendant l'homme augmenté pour résister à la machine, expliquant à Larry Page que lui, il est du côté de l'homme. Je veux défendre l'homme, mec, merde, explique-t-il textuellement, enfin, déclare-t-il à Larry Page lors des dernières discussions avant qu'il se fâche à mort, et Larry Page lui expliquant que les carottes étaient cuites et que de toute façon, nous ne pouvons pas lutter et qu'il faut accepter notre remplacement par une espèce plus intelligente que la nôtre, qui est l'IA. Ce qui rejoint d'ailleurs les visions un peu cauchemardesques d'Hinton, hein, qui est le vrai père des réseaux de neurones, Yann LeCun et puis Bengio ayant suivi un petit peu plus tard parce qu'ils sont un peu plus jeunes que Hinton. C'est ce qu'a déclaré Hinton ces derniers mois. Nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre et je suis très inquiet, nous dit-il, sur l'avenir de l'humanité. Il a même cité dans le Financial Times du 19 février dernier, dans une interview qu'il a donnée à Sornhill, qui est le spécialiste de la tech du Financial Times, il a dit « J'estime qu'il y a 10% de chance que l'intelligence artificielle extermine la totalité de l'humanité, wipe out, d'ici 2044. Donc, cette crainte de notre dépassement, voire de l'extermination, elle s'oppose radicalement au tenant de l'augmentation transhumaniste de Musk. Et finalement, là-dessus,
c'est drôle parce que Musk, là, pour le coup, c'est un modéré face à des gens comme Larry Page. Et entre ces deux visions, toi, ultra modéré. Et toi, entre ces deux visions, est-ce que tu te situes?
Écoute, si on me demandait mon avis et si j'étais un démiurge, moi, j'aimerais bien vivre 1 milliard d'années avec un corps biologique. Et acheter chaque année la nouvelle version du guide Michelin, garder des passions et des violences humaines. C'est le scénario que je trouve le plus sympathique. Oui, fondamentalement, Elon Musk, même si je suis nettement moins complotiste, c'est un euphémisme et anti-vax que peut l'être Elon Musk. Ça, c'est mon souhait. En 1938, j'aurais souhaité qu'Hitler soit gentil. Et en 2024, j'aimerais bien que Poutine soit gentil. Donc, entre mes souhaits, mes désirs, mes fantasmes géopolitiques et technologiques, et puis ce que je pense, il y a un écart. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous nous préparons tellement, 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 tellement mal à l'explosion de l'intelligence artificielle. Nous sommes tellement peu prêts que des scénarios de dépassement sont quand même possibles. Si tu prends le gouvernement français, il y en a aucun qui sait correctement se servir de GPT-4 et de Claude 3. Aucun. Dans les cabinets, il y a très peu de gens qui ont essayé ChatGPT ou GPT-4. À la tête du CAC 40, une large partie des gens n'ont jamais touché ChatGPT, GPT-4 ou Claude 3, qui sont les trois meilleurs modèles aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que l'éducation nationale n'est pas prête, la société civile a beaucoup de mal à suivre, le débat n'est même pas enclenché. 100% de l'énergie lors du débat actuel pour les élections européennes est consacrée à des affaires de corne-cul par rapport à l'importance de l'IA. Il n'y a pas encore eu un seul débat sur l'IA dans le cadre des élections européennes. Personne n'en a parlé, personne l'a mis dans son programme. C'est un non-enjeu. Donc, comme je le dis dans mon bouquin, dans la conclusion, ce que t'as pu voir, oui, on aurait pu imaginer un meilleur équilibre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Il aurait fallu que les élites politiques s'intéressent au sujet. Il aurait fallu que Sam Altman soit moins bon et que finalement on aille moins vite vers l'AGI. Et ce mouvement accéléré vers l'AGI, c'est quand même Altman qui l'a engagé parce qu'il a mis au point les LLM auxquels personne ne croyait et notamment pas Google qui en est l'inventeur. Il aurait fallu que l'éducation galope un peu plus vite. Il aurait fallu plein de conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Donc, on va très probablement avoir une explosion de l'IA sans augmentation aucune de l'intelligence biologique. Cette désynchronisation va poser des tas de problèmes et elle peut nous conduire à un scénario post-humaniste. Ce d'autant que la population sur Terre va commencer à collapser, à s'effondrer. Tu connais les chiffres. En Corée du Sud, on est passé à 0,7 enfants par femme, ce qui veut dire qu'à chaque génération, la population coréenne est divisée par 3. Les dernières prévisions après un pic important lié au fait que la transition démographique n'est pas faite en Inde encore et en Afrique subsaharienne, les dernières prévisions, c'est que on va rapidement tomber à 2 milliards d'habitants au début du 22e siècle. Donc, on a incité tous les jeunes à plus faire d'enfants, on les incite pour des raisons écologiques à ne pas se reproduire. Donc, en réalité, la quantité de cerveau humain va collapser. Alors même que l'intelligence artificielle explose, et tu connais le chiffre d'Altman, il a dit qu'en 2038, l'intelligence humaine représentera 1/1000 de l'intelligence totale sur Terre, 0,1%, pendant que l'IA représentera 99,9%. Donc, on voit une tendance vers leur marginalisation liée au fait que les cerveaux biologiques vont s'effondrer, qualitativement n'augmentent pas parce que l'école ne sait pas augmenter les capacités cognitives sous sa forme actuelle, et puis d'autre part, l'IA galope, et on se rend compte que fabriquer de l'intelligence nécessite un peu de pognon, quelques petits génies, du cloud, beaucoup de GPU, mais enfin, globalement, produire de l'intelligence, c'est vachement fastoche. Et la vitesse à laquelle les différents modèles, Gemini 1.5, Claude 3 et GPT-4 ont convergé, montre finalement que on peut assez facilement produire de l'intelligence artificielle. Il y a peut-être un plafond de verre au-dessus de GPT-5, mais globalement, c'est vachement plus fastoche de produire de l'IA que de l'intelligence biologique. Et puis, l'IA a un avantage absolument immense, à part le fait qu'elle est immortelle et qu'elle circule à la vitesse de la lumière, ou quasiment la vitesse de la lumière, c'est que la mise à jour des IA de 3, 4, 5 ou 6 AGI, c'est vachement fastoche. D'augmenter, de mettre à jour et de former des milliards de cerveaux humains en continu, c'est impossible. Aucune technologie ne pourra jamais rendre up-to-date des milliards et des milliards de cerveaux biologiques. Donc, il y a un avantage à l'intelligence artificielle qui est un avantage énorme, c'est que c'est un système relativement centralisé, avec soit un monopole, soit un oligopole d'AGI, puis plus tard de super-intelligence artificielle, alors que la mise à jour des cerveaux humains est une tâche qui est absolument décourageante. C'est-à-dire, nous ne pourrons jamais augmenter chaque nuit les 10 milliards de cerveaux biologiques de 2090.
Ce qui est étonnant quand je te dis, parce que je pense que j'ai lu tous tes livres. Et ce dernier livre, c'est un revirement radical par rapport à ton précédent. C'est-à-dire que dans le précédent, il me semble que tu militais pour la protection, je me rappelle de la célébration du réel, du hasard, du vivant. Et là, tu écris noir sur blanc, le guide Michelin est mort, il est condamné. Et d'ailleurs, tu dis les trois piliers de l'humanité.
D'accord. Il reste encore quelques années là, avant que j'arrive sur PA.
Oui, mais tu dis quand même que le corps, que le hasard, que l'esprit humain, elles sont aussi condamnées que le Michelin. Et pourquoi tu as changé radicalement d'avis?
Écoute, quand j'ai écrit La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, j'étais un peu comme toi. Je voyais la technologie galoper, mais j'étais convaincu que les élites politiques, que le monde de l'éducation, de l'université se ressaisiraient et qu'on aurait une réflexion collective pour améliorer les cerveaux humains, pour diminuer les inégalités, pour trouver des technologies réduisant les inégalités cognitives qui nous conduisent à une dystopie politique dans pas beaucoup d'années. La réalité, c'est que tout le monde s'en tamponne. Ça n'intéresse personne. L'investissement en France sur l'IA, il est nul. Matignon ne s'intéresse pas à l'IA. Le président s'y intéresse un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, il n'y a plus de sous. Le rapport qui est remarquable, qui a été fait sur l'IA récemment, avec des gens fantastiques dedans, comme Cyprien Canivinc, est en train de partir dans les poubelles de l'histoire. On ne va pas trouver d'argent pour financer les opérations tout à fait ingénieuses qui sont proposées dans ce rapport. On a des ministres qui ne s'intéressent pas à l'IA. Les réunions intergouvernementales n'intègrent jamais la dimension de l'IA. La stratégie hospitalière en France n'intègre pas l'IA dans la réforme du système hospitalier et de la médecine de ville. On pourrait multiplier les exemples. Aucune décision politique n'est prise aujourd'hui en intégrant cette cavalcade technologique. Donc, par rapport à il y a un an, je suis un petit peu plus pessimiste. D'abord parce que je me rends compte que notre dépassement va être rapide et je le vois, je le répète, en médecine. Je ne vois pas très bien comment l'accumulation de données pourrait freiner. Je ne vois pas très bien comment intellectuellement on pourrait rattraper l'IA. Donc, avec des élites irresponsables et qui s'en tamponnent, qui ne s'intéressent pas au sujet, on va forcément vers une désynchronisation importante entre le développement de l'intelligence biologique et de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas spécifique à la France. On voit bien que dans la plupart des pays, le sujet est trop chaud, le sujet est tabou. Les élites politiques aujourd'hui sont globalement pas des geeks, connaissent très très mal la technologie. On est effarés. Moi, je vais pas citer de nom, mais j'ai proposé à plusieurs ministres de la République, gentiment, bénévolement, gratuitement, de les former à ChatGPT. Mais ils n'ont pas voulu. La technologie leur fait peur. Ça ne les intéresse pas. Ils trouvent ça compliqué. Ils en voient pas l'intérêt. Donc oui, je suis plus inquiet qu'il y a un an parce que je vois que la société civile et le monde de la politique
Mais tu vois bien qu'on peut pas se satisfaire de ce constat. Qu'est-ce que...
Je me satisfais pas de ça. Je fais comme toi de l'évangélisation, et t'en as fait beaucoup avec TEDx Paris. Je fais de l'évangélisation technologique depuis le berceau, quasiment. Donc, ça fait des années que je forme les gens gratuitement, bénévolement, aux technologiques. J'essaie de leur expliquer les enjeux. J'ai écrit des milliers d'articles. J'ai donné des milliers de conférences sur ces sujets-là. Donc, on peut pas dire que je me contente. Je constate que la société civile refuse d'intégrer ces enjeux technologiques, et que même quand t'expliques gentiment et que t'essaies d'être didactique, il y a une fuite par les élites qui sont globalement aujourd'hui devenues technophobes, qui sont assez âgées. Et il y a une vraie cassure par âge. J'observe qu'au-delà de 50 ans, les gens ont énormément de mal à rentrer dans l'ère des LLM. C'est fatigant, ça les sort de leur zone de confort.
Mais prenons le problème autrement. Prenons le problème, par exemple, via l'angle de l'école. À quoi devrait ressembler l'école à l'ère de l'AGI?
Alors, tu as deux discours possibles. Tu as le discours lénifiant. On va intégrer l'IA pour mieux personnaliser l'éducation. On va aider les enfants à comprendre ces technologies. On va leur apprendre à prompter, etc., etc., etc. Et puis, tu as la réalité. La réalité, c'est que l'école est aujourd'hui totalement impuissante à réduire les inégalités intellectuelles et à augmenter les capacités cognitives des enfants, et notamment des enfants qui ont des difficultés à comprendre. Et que il n'y a pas le début du commencement d'une technologie pour augmenter les capacités cognitives. Alors, on peut apprendre des choses, bien sûr, et l'école a un rôle, mais hélas, l'intelligence est majoritairement génétique, même si elle n'est pas que génétique. Et cette dimension génétique, nous ne savons pas la casser. Dire qu'il y a une dimension majoritairement génétique dans l'intelligence ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire. Tu connais ma théorie là-dessus. La mucoviscidose est 100% génétique. Pourtant, l'espérance de vie des mucoviscidosiens en France est passée de 3 ans à 65 ans, grâce à la médecine, grâce à des nouvelles thérapies géniques pour traiter cette mutation du gène CFTR. Donc, dire que quelque chose est génétique ne veut pas dire qu'il y a un déterminisme qu'on ne peut pas casser. La médecine passe ses journées à casser des déterminismes génétiques. En médecine, on peut imaginer la même chose, sauf qu'on n'a pas commencé à y travailler et qu'en plus, on vit dans le discours bienveillant, mensonger et mortifère qui est que l'intelligence n'est pas génétique et qu'elle est culturelle, ce qui empêche de faire le bon diagnostic et de lutter contre le déterminisme génétique des inégalités intellectuelles. C'est d'ailleurs, et on finit par avoir des tas de gens qui disent que nous sommes tous égaux intellectuellement, et que c'est tout à fait fastoche de faire rentrer tout le monde à Harvard ou à Normal Sup. Un de nos amis communs, qui est un homme très puissant dans la République, ne cesse d'expliquer que si on lui donnait des cours de mathématiques, sa cuisinière pourrait rentrer à Polytechnique et finir X-Men. On se demande d'ailleurs pourquoi cette personne que nous connaissons tous les deux continue à la garder à la cuisine au lieu de l'envoyer faire Polytechnique. Mais l'école va décevoir, l'école va échouer. Elle va échouer pour deux raisons. C'est une technologie qui ne sait pas augmenter les capacités intellectuelles, même si elle sait transmettre certains savoirs, surtout aux enfants les plus intelligents. Et donc, ça va pas le faire. Et puis d'autre part, tu le sais bien, on pourrait imaginer de rendre une partie significative de la population complémentaire de Claude 3 et de GPT-4, mais le temps que tu lances le programme et que le ministre de l'Éducation fasse la conférence, GPT-5, puis GPT-6, puis GPT-7 seront certes sortis. Donc, on a du mal à voir par rapport à quoi il faut rendre nos gamins et nos petits-enfants complémentaires de l'IA. Et le scandale numéro un à l'éducation, c'est qu'il n'y a pas un seul spécialiste de l'IA rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation. Un vrai spécialiste de l'IA, il y en a zéro. C'est à pleurer d'horreur. D'ailleurs, si les politiques avaient conscience de l'importance de l'IA, on n'aurait pas un petit secrétariat d'État au numérique, on aurait un ministre d'État, numéro un dans la hiérarchie des ministres, à l'intelligence artificielle et non pas au numérique. Rien que l'intitulé du secrétariat au numérique montre qu'on n'a rien compris.
Tu écris dans le livre, à l'époque de Napoléon III, les chirurgiens ne se lavaient pas les mains. Aujourd'hui, en 2024, les enseignants n'étudient pas le cerveau des élèves à qui ils enseignent. À quoi ressemblerait une école qui étudierait le cerveau des élèves?
Écoute, tu sais bien que le QI moyen en France, il est de 100, par définition. On peut imaginer qu'une école qui utiliserait le numérique pour personnaliser l'éducation, qui essaierait de comprendre les blind spots, les failles cognitives, qui essaierait de trouver les zones d'intérêt, la façon d'intéresser les gamins au savoir, pourrait, malgré les éléments génétiques que j'ai dit tout à l'heure, pourrait faire gagner, à mon avis, une vingtaine de points de QI. C'est-à-dire, je pense qu'une école sur laquelle on investirait beaucoup, en recherche sur l'éducation, sur la personnalisation, où on utiliserait l'IA pour convaincre les enfants d'apprendre et pour intéresser les enfants à apprendre. Tu as probablement vu qu'il y a 3 jours est sortie une étude qu'a mis en exergue Ethan Mollick, le professeur de stratégie de Wharton, qui était un des grands spécialistes de l'IA, et qui a montré que l'IA est 81,7% plus convaincante que les humains. C'est-à-dire, une IA convainc un humain beaucoup plus vite qu'un humain convainc un autre humain. Ces technologies-là pourraient être utilisées pour améliorer l'éducation, pour renforcer l'intérêt des enfants. Et on peut raisonnablement penser qu'on puisse faire passer le QI moyen d'un pays comme la France de 100 à 115, 120, c'est-à-dire d'apporter à une grande quantité des jeunes Français la maîtrise du raisonnement hypothético-déductif. Aujourd'hui, le raisonnement hypothético déductif, qui est la base de tout savoir, il est maîtrisé par moins de 20% de la population française. C'est absolument catastrophique. D'amener 50% des gamins à maîtriser le raisonnement hypothético-déductif, ça augmenterait la quantité de gamins complémentaires de l'IA.
Mais les Chinois le font, les Sud-Coréens le font, les Chinois le font aussi.
Oui, oui. Alors, c'est plus facile l'éducation en Asie de l'Est, parce que le QI moyen y est plus élevé. Faut jamais oublier, quand on sort les performances scolaires des gamins dans des endroits comme Singapour, etc., on oublie que le QI à Singapour, il est presque 10% plus élevé que le QI à Paris. Donc effectivement, c'est plus facile que les gamins comprennent ce qu'on leur raconte quand le QI est à presque 110 que quand il est à 100. De même que c'est plus facile aujourd'hui d'enseigner en France où le QI moyen est autour de 100 que dans des pays où le QI moyen est à 65 ou 70, évidemment. Les réussites en Asie de l'Est, elles ne sont pas liées à des pédagogies extraordinaires. Elles sont liées au fait que les gamins sont en moyenne plus intelligents. Tu sais, c'est la même chose que les écoles Montessori. C'est pas parce qu'il y a une technologie Montessori miraculeuse que les gamins qui sortent des Montessori font des études formidables. C'est parce que le coût de la scolarité est plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Et que donc, sauf les enfants de la haute bourgeoisie, peuvent aller dans ces écoles. Et donc, on peut raisonnablement penser que si on mettait une chèvre à la place des institutrices et des instituteurs dans les écoles Montessori, on n'aurait pas une très très grosse différence à la sortie, parce que il y a beaucoup de bonnes fées qui se penchent sur les enfants de la très haute bourgeoisie dont les parents peuvent payer des scolarités aussi chères que dans les Montessori.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va souffrir de ce manque d'intérêt de nos politiques pour le sujet. Moi, j'ai le sentiment que de la même manière qu'on a souffert des climato-sceptiques, on va souffrir des sceptiques de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générale. Qu'est-ce que tu en penses?
Bien sûr, mais tu connais ma position, je ne suis pas du tout un climato-sceptique, ni même un anti-écologiste. C'est bien pour ça que je me désole de voir comment l'Allemagne remplace ses centrales nucléaires par des centrales au charbon et des centrales au gaz. Ça me rend malade. Mais diminuer le CO2, c'est beaucoup plus fastoche que de rendre les enfants pas très malins, complémentaires de l'intelligence artificielle. La crise cognitive, elle est beaucoup plus grave que la crise du CO2. Si on mettait 1000 milliards sur la table, on pourrait capter du CO2, on pourrait mettre au point l'énergie de fusion, régler une partie des difficultés des énergies renouvelables en trouvant des batteries n'exigeant pas de métaux polluants, comme c'est le cas aujourd'hui, etc., etc. Donc, la crise énergétique et écologique et la crise du CO2 peut être résolue avec un effort important. Si on faisait un programme Manhattan du stockage du CO2, un programme Manhattan de l'énergie de fusion, un programme Manhattan des batteries pas chères et n'utilisant pas de métaux rares, en 10 ans, on aurait des résultats aussi extraordinaires que les États-Unis ont eu avec le programme Manhattan pour la bombe atomique entre 43 et 45. Il suffirait de quelques milliers de milliards avant qu'on ait des technologies qui rendent un enfant pas malin, qui n'a pas beaucoup de mémoire, et qu'on le rende capable de comprendre l'architecture transformeur. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et je ne vois pas bien les technologies qu'on pourrait utiliser à court et même moyen terme. Donc on a finalement deux crises qui ne sont pas de même nature. Une crise réelle, le CO2, avec des solutions simples si on mettait le pognon nécessaire sur la table. Mais aujourd'hui, la gravité n'est pas telle que on est prêt à lancer ces trois programmes Manhattan dont je parlais. Hein. Il a fallu des circonstances exceptionnelles pour qu'on lance le programme Manhattan ou même le programme Apollo au début des années 60. Des raisons géopolitiques et des raisons militaires. Donc aujourd'hui, je ne vois pas cette mobilisation arriver. Donc, on va sur l'intelligence comme sur le CO2 avoir quelques décennies difficiles. Mais dans le cas de l'école, la France ne fait pas mieux qu'ailleurs, alors que tu le sais bien, la France est un des meilleurs élèves au monde sur le CO2 grâce au nucléaire. On le voit tous les jours. Hein. En ce moment, la France émet entre 10 et 20 fois moins de CO2 par kilowattheure que l'Allemagne. Et l'Allemagne est saturée par les fumées des usines électriques qui fonctionnent au charbon pendant que le ciel est clair au-dessus des centrales nucléaires françaises qui n'émettent pas de CO2 ni de fumée toxique.
Je me suis posé une question en lisant la fin du livre. Je me suis dit, mais il y a peut-être un problème de sémantique parce que tu parles d'immortalité numérique, mais l'immortalité numérique, ça n'est pas la vie éternelle. Ça n'est même pas la vie tout court. Est-ce que tu t'es demandé si certains ne confondaient pas, d'une part, la vie et d'autre part, l'intelligence? Ce sont deux choses différentes, la vie et l'intelligence.
La vie, c'est l'intelligence.
Non. Il peut y avoir vie sans intelligence. Il peut y avoir intelligence sans vie.
Oui. La vraie vie, c'est l'intelligence. Pour vivre, il faut comprendre le monde, il faut ressentir des émotions. Globalement, nous vivons plus, toi et moi, qu'un ver de terre. La conscience, la compréhension du monde, c'est l'essentiel dans la vie. Je pense que ce qui est le plus important que la vie, c'est l'intelligence. Il vaut mieux ne pas avoir de corps et comprendre le monde et ressentir des choses que d'être un ver de terre, c'est-à-dire d'avoir un corps biologique et de ne rien ressentir. Tu vois, entre être dématérialisé dans la noosphère, si on garde une existence individuelle, hein, et puis être un ver de terre, je pense qu'il est plus intéressant d'être un morceau de la noosphère.
On va s'arrêter là-dessus. Merci Laurent. C'est vrai que c'est un livre vertigineux. Pour moi, c'est ton meilleur livre, qui est le plus abouti. Et en même temps, je suis convaincu que ça n'est qu'une étape, ce livre. Moi, ma conviction, c'est que tu vas revenir sur ta conclusion. De la même manière que tu es revenu sur la conclusion de ton dernier livre, je pense que tu vas revenir sur ta conclusion. Parce que tu peux pas rester sans véritable réponse optimiste, politique, face à ce toboggan transhumaniste que tu décris. Parce que tu le décris très bien.
Post-humaniste.
Que tu décris. Tu le décris très bien. Tu décris le fait qu'il est inéluctable, mais on manque encore de pistes concrètes pour pouvoir l'éviter. Merci beaucoup Laurent pour le temps que tu nous as accordé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à Trendspotting pour ne rien manquer des tendances qui façonnent notre futur. À très bientôt.